c'est juste pour le fun. Avec Serge et Donatali, juste pour le fun.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 16e ou 17e épisode, je crois, je compte plus. Quand on aime, on ne compte plus. De Juste pour le fun, le podcast sur la créativité et sur le processus de création. Je suis Serge Paul et je suis toujours avec mon co-animateur et grand ami Don Atali. Comment ça va, Don ?
Ça va, bonjour et bienvenue à notre nouvel invité.
Notre invité mystère ! Ben pas si mystère que ça. Je pense que nos auditeurs la connaissent bien. Déjà, donc je donne un indice. Cher invité mystère, est-ce que tu peux te présenter sans dire ton nom ?
Alors, oui, je peux me présenter sans donner mon prénom. Je suis donc une femme. J'ai 33 ans depuis une dizaine de jours.
Hey, félicitations.
Merci. Merci. Je suis d'origine française. Enfin, je viens de France, j'ai des origines un peu mixtes, je suis journaliste depuis l'âge de 18 ans, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait un petit bail, et je suis spécialisée en culture.
Excellent. Et si je te demande de faire la météo, est-ce que ça va donner encore un autre indice à nos auditeurs ?
Côté météo.
Il faut s'attendre à...
Aujourd'hui, on va s'attendre à 3 degrés.
Alors, on est super content de recevoir Nathalie Salmeron dans nos studios. Vous l'avez reconnu, effectivement, avec sa belle voix qui porte, sa voix suave.
Ma voix suave, ma grosse voix, t'aimes pas quand je dis ma grosse voix ?
Non, j'aime pas ça, c'est trop négatif. Au contraire, t'as une voix qui porte, t'as une belle voix, une belle voix de radio, donc faut en profiter. Nathalie, merci d'être là.
Bah, merci à vous de m'avoir invitée, les gars, je suis contente. Après avoir vu 4000 personnes défiler dans le studio, j'ai demandé à être invitée.
Juste pour le fun, exactement.
Nathalie, on va parler, comme tous nos invités, de créativité, de processus de création. Tu as dit que tu étais journaliste depuis maintenant...
L'âge de 18 ans,
Plusieurs piges.
Ouais.
Une pige, c'est 5 ans, donc c'est ça. ou des lustres, je crois, un lustre, c'est 5 ans. Et donc, tu écris. Tu es beaucoup dans l'écriture, toi.
Ouais, j'étais... Bah, en fait, quand j'ai fait une école multidisciplinaire à Paris qui touchait à tout, en fait, parce que je savais que je voulais être journaliste depuis l'âge de 10 ans, un truc comme ça. Depuis que j'ai regardé les Tortues Ninja, moi, je voulais être April O'Neil.
Ah oui.
C'est pour ça trop stylé.
C'est pour ça, la casquette.
La casquette, parce que j'adore les accessoires. J'ai toujours un chapeau ou une ceinture ou un sac ou un truc, mais souvent un truc sur la tête, ouais. Un bandana, un chapeau, une casquette, donne un peu pareil aussi, souvent un truc sur la tête.
J'avoue, j'ai un peu recherché sur Facebook et j'ai vu des photos effectivement de coupe de cheveux sur la tête qui était un... Je t'aurais pas reconnu.
Ah oui, mais non, mais parce qu'à la base, j'ai les cheveux bouclés. Et en fait, je suis devenue blonde.
Et t'étais très blonde, c'est ça exactement.
Ouais, j'ai fait blond pendant 7 ans, c'est une très mauvaise idée, ça m'a tué mes cheveux, ça m'a tué mes boucles. Enfin bref, on n'est pas là pour parler coiffure, puis c'est pas avec toi qu'on va parler coiffure, hein. Blague à part. Mais du coup, ouais, ça faisait super longtemps que je savais que je voulais être journaliste, mais je ne savais pas dans quel média exactement. Je pensais vouloir faire de la télé, mais j'adorais écrire. J'ai toujours été super forte. Moi, les chiffres, ce n'est pas mon truc. Je suis très, très nulle. J'ai toujours été très, très nulle. Donc, je savais qu'écrire, c'était mon point fort, mais je ne savais pas si je voulais écrire pour la télé, si je voulais écrire pour le cinéma, si je voulais écrire pour moi, en tant qu'auteur, par exemple, pour écrire des bouquins ou quoi. Et puis, je me suis dit qu'une école de journaliste, ça allait me donner un petit peu plus la voix, puis ouvrir un peu sur plein de trucs. Et en fait, j'ai commencé à écrire sur le web. En fait, quand tu fais une école de journaliste, c'est en 3 ans. Enfin, moi, j'ai fait une licence, donc c'est en 3 ans. Et ma première année, je l'ai fait sur le web. Donc, j'ai écrit des articles, un petit peu de tout et de rien. J'ai travaillé dans une radio de santé aussi. J'écrivais des articles un peu sur le thème de la santé. Et puis après, je me suis spécialisée, ouais, c'est mieux, en radio la deuxième année et la troisième année en production télé. Et en fait, je préférais la radio avec le recul.
Et avant ça, avant cette formation, qu'est-ce que tu écrivais ? Est-ce que la Nathalie adolescente écrivait déjà et qu'est-ce qu'elle écrivait ?
J'écrivais des textes de poésie un peu quand j'étais petite, des textes qui rimaient. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment de la poésie ou du slam avec le recul, c'était peut-être plus du slam. Mais j'ai passé ma phase d'adolescence un peu comme ça. Puis moi, je suis née en 91, donc les réseaux sociaux, tout ça, ce n'était pas encore la folle époque en fait. Ça commençait, on avait un Skyblog, Donc, j'écrivais des textes sur mon Skyblog, des petites MySpace. Poésies. Non, j'ai pas eu MySpace. Ah. MySpace, non, parce que c'était plus pour les gens qui faisaient de la musique, ça.
Ouais.
Donc, moi, j'avais juste un Skyblog. Alors, j'étais à fond dedans. J'écrivais en blanc sur du blanc. Donc, il fallait surligner pour voir les messages cachés derrière et tout. Enfin, bref, j'étais à fond dans mon truc. Mais ouais, j'écrivais pas mal. Et même à l'école, en fait, j'étais à fond. Les rédactions, les trucs comme ça, la philo, tout ça. Tout ce qu'il fallait écrire, en fait, c'était vraiment mon truc. J'ai toujours aimé écrire, en fait. Mais parce que je suis une grande pipelette aussi. Donc, je pense qu'à un moment donné, au lieu de parler aux gens, je commençais à écrire parce que je me dis, je vais les saouler de paroles. Donc, je vais les coucher un peu à l'écrit, tout ce que je raconte. Mais ouais, non, j'ai des cahiers. Des fois, quand je rentre en France, je fais un peu le tri parce que ma mère est là, ouais, tous tes cahiers, on en fait quoi? Donc, du coup, je regarde et ouais, il y a des textes qui datent de quand j'avais 15 ans, quoi. Ouais, pas mal de trucs.
Donc, le web, la radio,
la télé. Ouais.
Tu te sens plus confortable dans quel domaine?
Je pense que je préfère la radio parce que la télé, c'est trop un monde où l'image est tellement importante qu'on oublie un peu le fond. Je trouve que la forme prend beaucoup trop d'importance. Et je trouve que la radio, c'est un peu l'ancêtre de tous les médias. Tu vois, genre, on se rappelle de Gaulle qui passait son message depuis Londres. C'était grâce à la radio, tout ça. Et je trouve ça super cool. Et puis, il y a ce côté aussi communautaire, en fait. Ce que tu écoutes à Toronto, tu ne vas pas l'écouter en Alberta ou quoi que ce soit. Donc, même à Paris, j'ai travaillé dans pas mal de radios un peu locales. Et je trouvais ça super cool. Et je me rappelle avoir passé un entretien avec Guillaume Play. Je ne sais plus c'est quoi son nom, le mec de l'énergie. Et je sentais que ce n'était pas trop ce que je voulais faire. C'était trop du grand média où il fallait trop faire de la déconnade, il fallait trop être là-dessus. Et je n'y étais pas encore, je pense que j'étais trop jeune. Mais ouais, la radio, je trouve ça cool comme média, ouais.
Mais est-ce que ça nourrit ton envie d'écrire, la radio? Parce que c'est quand même un média audio, entre guillemets. Donc,
ouais, c'est vrai que pendant un moment, je trouvais que j'écrivais plus assez. Donc, chaque interview que je fais avec un artiste ou avec quelqu'un de la communauté, en général, il faut quand même qu'il y ait une trace sur le site. Donc, j'écris un petit peu un article. Mais c'est vrai que je suis loin des centaines d'articles que j'ai pu faire. Donc, là où je m'y retrouve quand même un petit peu, c'est surtout les projets spéciaux qu'on fait. Il y a toujours des intros, de la recherche, des trucs comme ça. Donc, à ce moment-là, je suis contente de pouvoir écrire. Par exemple, je sors ça au hasard, mais tout ce qui va être Nos aînés connectés, c'est une émission qui est passée là il n'y a pas longtemps, qui s'est terminée. Je prenais plaisir à faire toutes mes intros, à tout écrire, parce que voilà, c'était un peu mon lien pour rester un petit peu dans l'écriture, parce que ça a tendance à me manquer. Mais après, oui, quand en fait, écrire, c'est pas le seul truc qui est. Enfin, le journalisme, c'est pas juste écrire, tu vois, c'était. Associer mes idées et le dire à l'antenne, ça marche aussi. Il y a des fois, je fais des trucs sans écrire, sans filet. Parce que ça y est, comme je l'ai dit, ça fait un petit bout de temps que je fais du journalisme. Donc, j'ai plus forcément besoin d'écrire tout avant de le dire. Mais c'est vrai que je suis très papier, feuille, stylo. Tu as vu mon bureau, il y a un milliard de papiers dessus. J'adore ça. Mais c'est vrai que j'écrivais quand même moins qu'avant, au final.
Et c'est intéressant parce qu'on en revient à chaque fois à la même chose dans nos émissions. Ce dont on parle avec Don dans la voiture quand on vient, on en revient à en parler là. Et là, on en parlait dans l'ascenseur tous les deux.
Que mon bureau était en bazar.
Non. On parlait de l'art de la conversation.
Ouais.
Et quand tu interviews des gens, quand tu commences à poser des questions, à écouter ce qu'ils te disent et puis à rebondir sur ce qu'ils te disent, ça fait partie de l'art de la conversation. Est-ce que tu dirais que tu manipules ou tu maîtrises cet art, toi, ou plus l'art de l'écriture? Est-ce qu'il y en a un dans lequel tu sens plus confortable que l'autre?
Je te dirais qu'au début, je pensais être plus habile à l'écrit. Et au final, je me suis découverte un talent dans l'art de la conversation parce que ça a l'air tout simple, en fait, quand tu fais une interview avec quelqu'un, que ça rebondit et que ça soit super fluide. Mais en fait, ça demande un grand effort parce que tu parles à quelqu'un, tu lui poses une question, tu sais jamais réellement où il va t'emmener. Tu as 2-3 pistes, des fois, sur ce qui va t'emmener, mais la personne peut te surprendre et partir sur un sujet complètement différent. Et toi, dans ta tête, il faut que tu gardes le cycle de ton interview. Donc, tu dis, OK, il faudrait quand même qu'on parle de ci, de ça. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas rebondir sur ce qu'il me dit et laisser ça comme si ce n'était pas intéressant. Donc, en général, même pendant l'échange, je prends des notes, j'écris des mots pour revenir là-dessus parce que c'est hyper important Et que, ouais, j'aime bien rebondir sur ce que les gens ils disent. Et d'ailleurs, dans mes interviews, je trouve que j'ai des tocs de langage parce que je dis souvent, ouais, je rebondis et justement, et machin, parce que je veux pas louper le coche. Mon interview en tant que telle, j'ai souvent des axes de conversation plutôt que des questions. D'ailleurs, les gens, ils sont toujours très surpris parce que souvent, j'arrive avec un post-it en entrevue. Et les gens, ils sont là, c'est ça, t'as bossé là? Je dis, bah oui, j'ai bossé, mais parce que, en fait, j'ai pas besoin d'écrire toutes mes questions. Si je mets deux, trois mots, je vais savoir articuler mes phrases et tout. Mais ouais, l'art de la conversation, c'est hyper important. Mais c'est un truc que j'ai depuis que je suis toute petite. Moi, je suis fille unique. Et je pense que quand t'es enfant unique, en tout cas, c'est mon point de vue perso, tu développes une créativité qui est un peu différente des autres enfants parce que bah, t'es tout seul. Donc, en fait, tu te fais un peu les questions-réponses, tu fais un peu le méchant et le gentil à la fois. Genre, j'avais pas des amis imaginaires, mais je pouvais m'amuser des heures toute seule sans que...
Je t'ai vu les parler.
Non, ça, c'est les clowns dans ma tête. Non, mais ouais, j'ai jamais d'amis imaginaires, par contre. Mais ouais, j'ai toujours été fille unique, entourée de cousins, cousines et tout. Mais c'est moi toute seule.
Mais même quand on parle pas d'amis imaginaires, si tu as Barbie et Ken... Barbie va dire, Ken, tu veux aller manger? Ken va dire, non, c'est pas.
Il va faire la.
Ouais, mais ouais. Tu fais la conversation toute seule. Quand
ah,
même.
Bah ça, ouais. Ouais. Ça, mais depuis longtemps. Et du coup, je pense que mes parents, ça les a un peu. Ok, on n'a pas besoin de s'en occuper trop, parce qu'elle se débrouille un peu toute seule. Je pouvais jouer pendant des heures chez moi, toute seule, avec. Tu vois, je mettais toutes mes peluches, je faisais la maîtresse d'école, je faisais mes trucs et tout. Et ouais, je pense que quand t'es enfant unique, il y a ce truc de... mais il n'y a personne d'autre pour t'amuser. Et mes parents, ils bossaient, ils n'avaient pas forcément le temps de jouer à la Barbie avec moi, par exemple. Donc du coup, ouais, je me faisais un peu les questions-réponses toute seule. Donc est-ce que de là est né mon art de la conversation? Mais non, je ne pense pas. Je pense que je suis une grande pipelette. Et que du coup, bah, il a fallu travailler avec ça. Il fallait bien que je trouve un boulot où... Parler n'était pas un problème.
Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, quand on parle de l'art de la conversation, c'est plus l'art d'écouter que l'art de parler, en fait. Parce que c'est là que tu dois rebondir sur ce que la personne te dit. C'est là où tu dois dire, OK, il faut que je laisse parler jusqu'au bout, comme tu as dit, pour voir où est-ce qu'il va en venir. Et puis ma question qui porte sur le début de sa réponse, bah, tu la poseras peut-être tout à l'heure ou tu essaies de t'en rappeler. Mais c'est, pour moi, c'est vraiment... Et tu le fais très bien, je trouve. C'est plus écouter que parler, en fait.
Il y a les deux aussi, parce que je pense que plus, et je le remarque, je le fais de plus en plus dans mes entrevues, c'est que plus tu donnes un peu de toi, plus les gens ils vont être à même de partager aussi. En gros, oh, elle partage, bah vas-y, moi aussi, j'ai pas peur, du coup, je vais partager. Ouais. Donc, du coup, il y a ce mix entre savoir écouter, et c'est pas mon interview, c'est l'invité que je dois mettre en avant, mais aussi lui donner un peu de moi, comme ça, quand il part, il a l'impression que c'était pas intrusif que pour lui, que moi aussi, j'ai donné un petit peu. Donc, je pense que c'est quand même un peu des deux. Bien sûr, il faut savoir écouter pour relancer la personne, et puis aussi savoir l'écouter pour l'amener vers des terrains. Moi, quand je commence une interview, je dis toujours aux gens, je vais ouvrir des portes, mais libre à toi de fermer la porte sur ton jardin secret. Ce qui se passe dans leur vie perso, s'ils n'ont pas envie de le partager, je le comprends et je le conçois. Moi, il y a des trucs de ma vie que je n'ai pas envie qu'on raconte à l'antenne, quoi. Mais mettre les gens à l'aise et surtout faire preuve de bienveillance, en fait. Je pense que dans ce métier, c'est le plus important parce que si tu te sens dans le jugement ou quoi que ce soit, les personnes, elles vont peut-être venir une fois, mais pas deux, quoi. Puis, je suis très loin de... Enfin, moi, mon modèle de journalisme, c'est pas Ardisson, c'est pas Marc-Olivier Fogiel, ces mecs-là que, quand j'étais petite, c'était des grandes stars de télé, mais je trouvais que c'était trop piquant, en fait. Je trouvais que tu venais pour te faire roast, comme on dit ici en anglais, quoi. Tu viens pour te faire griller, au final, c'est
justement,
chiant.
Justement, parce que en t'écoutant et en passant à plusieurs autres conversations que j'ai eues aussi, à la fin d'une belle conversation, tu devrais retenir quelque chose... que ce soit quelque chose que tu as dit ou que l'autre a dit ou que vous êtes arrivé à quelque chose. Et qu'est-ce que j'allais dire après ça? C'est que donc, dans ce que tu venais de dire, il y a surtout quand on regarde la télé ou d'autres genres de podcasts où ils cherchent le choc. Tu vois, ils continuent de te poser une question, par exemple, sur une rumeur. Ouais. Et puis ça revient deux, trois fois dans la même interview. Tu dis, mais... En fait, ça, c'est une art de la conversation, mais négatif.
C'est, ouais, donc, c'est l'art de piquer, ça, voilà. Pour moi, tu vois.
Ouais, donc, alors, ça devient même plus intéressant quand tu vois quelqu'un qui refuse de faire ça, qui sait comment faire ça, parce que de toute façon, tu fais ça depuis longtemps.
Ouais.
Mais quand tu poses les questions, en fait, c'est... Oui, pour toi, à la fin de la conversation, est-ce que tu te rappelles souvent de ce que tu as dit ou ce que la personne a dit ou...
Bah, oui et non, ça dépend. En fait, sur une heure d'interview, il y a peut-être des trucs qui m'ont échappé. Mais de manière générale, j'ai une bonne mémoire, en fait. Donc, je me rappelle bien et il suffit que la personne, elle ait soulevé des trucs qui me touchent pour que ça me reste en tête, en fait. Et des fois, ça m'arrive que même plusieurs mois ou même un an après, je revois la personne et je dis « Ah, tu te rappelles, en interview, tu m'avais dit ça ?» Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui te sortent des petits moments Nutella, comme j'appelle, des petits moments qui font chaud au cœur, tu vois, et tu te dis « Ah, c'est cool !» Et je ne suis pas sûre que cette personne l'ait partagé sur d'autres antennes. Ici, j'ai quand même la chance de rencontrer plein de gens de la communauté. Quand j'étais à Paris, c'était plutôt des célébrités, des petites stars, des machins. Et tu es toujours content quand tu as l'impression d'avoir une exclusivité. Tu vois, même ici, des fois, j'ai des gens qui viennent et me disent « Ah, bah, on l'a annoncé encore nulle part, mais voilà, il va se passer ci et ça. » Et en fait, tu te sens chanceux de pouvoir être dans la confidentialité, en fait. Mmh. J'aime bien ce côté-là, en fait. Mais par contre, autant... J'essaie de ne pas le faire dans le cadre du travail quand j'interviewe quelqu'un, mais ça m'arrive par contre que dans ma vie personnelle, je pose des questions piquantes exprès. Et je le vois, en fait. Je sais qu'à ce moment-là, c'est pas que je ne suis pas dans la bienveillance, mais que je sais que je veux arriver à mon point et que là, je m'en fous, je ne suis pas payée pour faire ça. Donc, c'est moi et la personne. Soit elle le prend bien, tant mieux. Soit elle ne le prend pas bien, tant pis, parce que je ne peux pas être toujours super sympa non plus. Mais ouais, il y a des fois où je sais par contre être piquante, tu vois. Mmh. Ça dépend. Ouais.
Mais ça, c'est parce que c'est une question rhétorique dont tu connais déjà la réponse et que tu veux la confirmer en fait par la personne à qui tu parles.
Ouais, ou quelqu'un qui tourne trop autour du pot et qui commence à me donner le tournis et que je veux qu'elle articule sa phrase elle-même. Je vais la pousser à le dire des fois. Ouais, c'est un peu mon côté, mon petit côté diablotin, ça.
Ouais. Mais... Vas-y, donne, excuse-moi.
Ouais, bah, j'allais juste vous proposer comme un petit jeu, comme par exemple, comment poser une question d'une façon créative quand tu vois que la question originale est mal partie. Par exemple, il y a un mot dans la question. Bah, là, je n'arrive pas à donner un bon exemple, mais par exemple, voilà, quelqu'un qui est divorcé.
OK.
Et... tout le monde sait que son ex vient de se remarier. Okay. Maintenant, tu dois poser la question, est-ce que tu savais que ça s'est passé le week-end passé, tu vois? Maintenant, donc,
c'est délicat, mais après, ça dépend de la personne. Est-ce que la personne, je la connais ou pas?
Donc, tout ça vient dans la créativité. Parce que ce soit sur un podcast ou juste vous deux ou au téléphone, tu vas... trouver un moyen, parce que ton but c'est d'avoir l'information, tu vois?
Ouais.
Si tu parles même à ton ami, tu dis, je veux que mon ami sache que moi j'ai vu ça, mais maintenant comment tu vas aborder ça? Je crois que j'essaie de trouver où est-ce que l'art, la créativité dans l'art de la conversation en fait devient utilisable peut-être.
Bah, en fait, ça va dépendre de mon lien avec cette personne. Si c'est une personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que je ne connais pas son humour et que je ne sais pas où vont être les limites de... Ça va être un peu compliqué pour elle d'entendre cette phrase. Je ne vais peut-être pas faire la faux-folle à partir loin. Donc, je vais dire, est-ce que tu as vu les nouvelles? Est-ce que tu as bien vu les nouvelles? Est-ce que je peux te montrer un truc? Et je vais lui montrer directement en tête l'article, tu vois. Mm-hmm. Mais commencer comme ça une interview, c'est sûr que la personne, si elle n'est pas contente, elle va se fermer. Donc, je ne le ferai peut-être pas en début d'interview, tu vois. Je le ferai peut-être à la fin ou en off. Mais je ne commencerai jamais une interview comme ça si je ne suis pas sûre que la personne, elle est à l'aise avec ça. Parce que je trouve que c'est trop dur de mettre des morceaux de vie privée dans des interviews pro, tu vois, par exemple.
Ouais.
Mais si c'est un ami à moi et qu'on est d'accord sur le fait que ça ne le dérange pas, de savoir que son ex est remarié, que machin, je vais limite en jouer. Je vais faire des blagues. Genre, bah alors, et c'est qui est resté comme un vieux couillon en bas de son arbre? Et bah, c'est toi.
Mais ça peut être un truc pro aussi si la personne, avant l'interview, t'a dit, ouais, on sort un album bien bientôt, et qu'elle te dit à toi parce qu'elle se sent bien avec toi. À un moment donné, il va falloir que tu lui fasses dire, entre guillemets, sans la piquer.
Ouais.
Mais tu vois,
ça arrive. Ça arrive que la personne en rantaine, elle me dise. Ouais, d'ailleurs, il y a un truc que je peux pas trop annoncer, mais je te le dis, il y a sortie d'album. je vais sortir, par exemple, en fin d'interview. Est-ce que tu as des projets pour cette année? Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous dire? Ou tu as encore des petits secrets que tu nous gardes? Voilà, je laisse toujours la porte entrouverte. La personne, elle est libre de l'ouvrir ou de la fermer. Parce que je trouve que de prendre le choix d'ouvrir moi-même cette porte qui ne m'appartient pas, c'est super indélicat. Et c'est un truc que je fais rarement, en fait. Je préfère parler avec la personne dès le début. Bah, dans mes interviews, on ne l'entend jamais parce que c'est ce que j'enlève au montage, en fait. Mais il y a toujours, indépendamment de la personne que je vais inviter et indépendamment de l'habitude de la personne face aux médias, je vais toujours avoir entre 5 et 15 minutes de prépa. Pas où je vais lui expliquer mes questions, juste je vais prendre un peu la température, déjà voir la personne si elle est plus ou moins volubile, si elle est dans la blagounette. Moi, j'adore faire des blagues, j'aime bien piquer un peu, voir c'est jusqu'à où que je peux aller, entre guillemets. Donc, ouais, ça dépend en fait. Ça dépend vraiment de la personne que j'ai en
Et
face.
ça, tu vas l'enregistrer, les 15 minutes de préparation? Ça, c'est intéressant parce
Je
que...
les en... Ça dépend. Admettons, si je fais une interview sur Zoom, quand je lance le Zoom, l'entrevue, elle part dès le début.
C'est
Donc,
vrai, c'est
ouais, ces
vrai.
15 minutes,
Ouais,
elles
c'est
sont
vrai.
là. Et même quand je suis en studio, je fais des tests micro. Donc souvent, je dis à la personne, ça s'est passé comment ta journée? Moi, pendant ce temps-là, je fais mes tests pour voir si le micro est pas trop fort, machin. Et ça arrive que des fois, ouais, ces minutes-là, elles sont enregistrées, ouais. Mais je les coupe après. C'est mon moment Nutella perso. On est sponsorisé par Nutella dans cette émission. Mais c'est mes petits moments avec l'artiste ou avec la personne. Et c'est ce qui fait que la personne, elle se rappelle de moi aussi quand je la retrouve après ou qu'on garde de bonnes relations, en fait, tu vois.
C'est vrai que tu peux pas vraiment faire beaucoup d'interviews avec succès avec deux personnes qui se sont jamais rencontrées. Ça c'est ta chaise, ça c'est ta chaise, parler.
Bah, si tu fais pas une petite prépa
Ouais.
d'abord, ouais, ça peut être un peu compliqué. Puis ça
Ouais.
dépend du sujet. Tu vois, si on parle d'un truc super personnel et que les personnes, elles se sentent peut-être pas suffisamment à l'aise pour raconter leur vie, ouais. Moi, ma pire angoisse en entrevue, et encore plus maintenant que je fais de la radio, c'est le silence. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle et qui s'arrête et que moi, là, à ce moment-là, je sais pas rebondir, c'est mon angoisse suprême. Déjà, de manière générale, le silence me stresse. Mais alors, en radio, c'est pire. Donc, ouais, quand je vois que ça commence à patauger un peu dans la semoule, là, l'histoire, j'essaye toujours de retrouver un truc, un rebond, ou... Ah ouais, non, le silence, c'est l'angoisse, quoi.
Et sans citer de nom, est-ce qu'il y a des personnes que tu as interviewées ou que tu as rencontrées où il n'y avait pas du tout de fit et ça collait pas du tout? Et c'est pas, on ne plaît pas à tout le monde. Donc,
Ouais.
comment Nathalie, l'artiste en conversation, c'est comme ça que je vais t'appeler maintenant, elle gère ça?
Alors c'est rigolo, ça fait il y a une dizaine d'années, je travaillais pour un site où je mettais en avant les artistes francophones. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je bossais à Paris et au final c'est ce que je fais aussi ici. Et j'ai eu la chance d'interviewer Vita, la chanteuse là que tout le monde connaît plus ou moins. Et en fait, autant l'entrevue s'est ultra bien passée parce que je suis restée professionnelle, autant en tant que personne, c'était super compliqué au début parce que c'était une interview qui était filmée et que elle nous avait demandé un éclairage spécial. On arrive, je suis dans les locaux d'Universal Music à Paris et la lumière de mon caméraman, on l'allume, plat, elle pète. C'est-à-dire que je viens de lui dire bonjour, elle m'a dit ah, c'est bien, vous avez ramené la lumière comme j'ai voulu et tout, nanana. Ouais, ok. On allume, action, paf, la lumière elle pète. Oh, je me dis, elle voudra jamais faire l'entrevue. Elle veut pas être filmée sans un éclairage et tout. J'ai dû taper tous les étages dans Universal, trouver une halogène dans le bureau du PDG de Universal, mettre l'halogène allongée sur moi, ça me brûlait les cheveux. À cette époque, j'avais encore les cheveux bouclés, donc j'avais une touffe comme ça qui était en train de cramer. Et j'ai pris sur moi pendant l'entrevue, histoire que ça se passe bien. Mais oui, à la base, on s'entendait pas des masses, tu vois. Puis quand elle a vu que ma lumière, elle avait claqué, elle m'a dit un peu en mode, bah, tu te débrouilles, elle était sur son téléphone en train de commander des sushis, tu vois. Donc j'étais là, ok, elle va pas m'aider et elle va pas y mettre du sien, tu vois, pour que ça se passe bien. Donc faut que je me débrouille. Et au final, je pense que le fait qu'elle ait vu que j'allais pas lâcher l'affaire, l'entrevue, je l'ai, j'ai mon créneau, c'est juste un problème technique. Donc on va trouver une solution, une lampe, c'est pas le pire à trouver, tu vois. Et au final, l'entrevue, elle s'est super bien passée.
Donc toi, tu arrives à séparer, on va dire, l'artiste de la personne, entre guillemets.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est plus Nathalie Salmeron,
Salmeron.
Salmeron, pardon, désolé, qui va ressentir ce qu'elle a ressenti avec cet artiste-là.
Ouais.
C'est la journaliste, en fait, qui va lui parler
Complètement.
et qui va effacer complètement tout ça.
Ouais, complètement. Et même de manière générale, quand je suis dans ma vie personnelle, je suis quand même vachement plus timide que quand je suis à la radio. À la radio, il y a même la dernière fois, j'ai fait une interview, j'ai perdu quelqu'un de ma famille il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'étais en deuil et il fallait quand même que je vienne ici pour faire mes émissions et tout. Et avant de recevoir les invités, je leur ai dit, voilà, je suis en deuil, c'est un peu compliqué pour moi, j'ai du mal à amuser la galerie en ce moment et tout. Mais on va quand même faire cette émission parce qu'il faut la faire et tout. Et en fait, ils se sont assis et ils avaient un peu peur que l'entrevue, elle soit un peu monotone, pas foufou, quoi. Et en fait, ils m'ont dit, c'est incroyable parce qu'au moment où tu as dit, eh bonjour et salut, c'est Nathalie, tu n'avais plus la même voix, tu n'avais plus le même visage, tu n'avais plus la même énergie. Parce que, en fait, je me mets dans un rôle comme un acteur. Quand Brad Pitt, il monte sur un tournage, et ben, c'est plus Brad Pitt, c'est le gars de tel film, tu vois. Et là, c'est un peu pareil, en fait. Je mets de moi dans toutes mes interviews parce que c'est mon cerveau qui travaille, mais je suis pas sous ma vraie identité de Nathalie dans le perso, en fait. J'essaie de mettre un peu comme un masque de la personne super... dans l'entertainment, on est super dans l'amusement et tout
c'est
ça.
C'est juste professionnel quand même, de toute façon. Tu es au travail, ton travail c'est de faire ça, donc tu dois faire ça de manière...
Et puis tu vois, les gens qui allument la radio, ils ne sont pas là pour écouter mes états d'âme, en fait. Donc si je vais mal, ils ne sont pas censés le ressentir, en fait. Donc je le prends pour moi et les heures d'antenne, j'essaye d'être... la plus constante possible par rapport à ce que je fais d'habitude, tu vois. Mais c'est pas forcément simple, tu vois, genre je prends beaucoup sur moi, genre ces derniers temps là ça a été particulièrement difficile parce que quand t'es en plein deuil et que ton but c'est de faire amuser et faire rire les gens, que toi t'as pas le cœur à la fête, t'es un peu là en mode waouh, elle va être compliquée cette journée, tu sais, ça te prend beaucoup d'énergie, tu vois. Mais après, et on en avait déjà discuté ensemble, Serge, moi j'ai ce côté un peu hyperactif, donc du coup c'est pas grave, je mets tout ça dans une petite boîte et puis je ressors mon chagrin quand je ressors du studio, en fait.
Ce qui me fait rire, c'est que vous deux, vous dites, vous avez un côté un peu, et vous, après vous dites hyperactif. Ça ne peut pas être un peu, si c'est hyperactif.
Un peu hyperactif, c'est comme je suis un peu grande comme fille, tu vois.
J'ai une question pour toi, ce que tu viens de dire, et qui, je voulais savoir ce que tu en penses. Tu as parlé beaucoup de humour, et tu mentionnes beaucoup ça. C'est important pour toi dans tes interviews. Pourquoi ? Et je dis ça parce que je vais prendre des exemples d'autres journalistes qui vont faire des très très bonnes interviews mais qui vont avoir, suivant leur personnalité, une façon différente d'interviewer et qui ne vont pas utiliser l'humour. Est-ce que toi, tu dirais que dans ton art, l'humour est super important et même obligatoire ? Et est-ce que tu sais pourquoi ?
Ouais, j'adore l'humour et ça me frôle toujours... c'est toujours dans un coin de ma tête de faire du stand-up et de monter sur scène. C'est un truc que je voulais faire à Franck Open Mic, mais avec les événements récents et tout, j'avoue, j'ai pas trop la tête à faire rire la galerie, du coup. Mais c'est un truc hyper important. Moi, mon père, en voiture, ça a toujours été Rire et Chanson, la radio des blagues. Moi, j'ai été élevée avec... J'étais élevée avec les Elikaku, les trucs comme ça. Donc, j'ai toujours regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles d'humour. Et en fait, comme je disais, moi, je suis quelqu'un d'assez timide. Ça se voit pas. À chaque fois que je dis « je suis timide », les gens me disent « toi, t'es timide ? Mais à quelle heure ?» Mais en fait, je le cache derrière ce truc de « je fais plein de blagues ». Comme ça, hop, tu regardes par là et tu regardes pas par là, en fait. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, il y a aussi le côté... j'ai toujours été un peu l'intello de l'école. Tu vois, genre quand j'étais en primaire, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, j'ai toujours été plus ou moins la première de ma classe. Et j'habitais en banlieue parisienne.
Sauf en maths, apparemment.
Sauf en maths, alors là, j'étais pourrie.
Je croyais qu'elle allait dire, j'ai toujours été la plus intelligente chez moi. J'étais la seule.
Non, j'étais forte à l'école. J'ai toujours eu beaucoup de facilité, sauf dans les matières scientifiques où vraiment c'était un refus. Après, je rejetais le truc, donc voilà. Mais vu que j'habitais en quartier... quand t'es la première de la classe, les gens, ils t'aiment pas trop parce que du coup, tu sais, tu vas pas avec le flow du groupe où on est un peu nul et vas-y, c'est pas grave si on est pourri à l'école. Non, moi, c'était hyper important. En plus, je suis fille unique. Pour moi, c'était hyper important que mes parents, ils soient fiers et tout. Et du coup, le côté faire des blagues, ça atténuait pour les autres le côté aller hyper intello, tu vois. Donc du coup, j'étais au même pied que tout le monde. Je faisais les mêmes blagues pourries que tout le monde. Et du coup, les gens oubliaient en fait que moi, j'avais 20 sur 20 à chaque fois, tu vois. Eux, ils avaient zéro, je faisais une blague sur le fait qu'ils étaient pourris et puis ils oubliaient, en fait. Donc, l'humour depuis tout le temps. Donc, puis, ça m'a sauvée aussi. Je fais 1m95, t'imagines ? J'ai toujours été super grande, je fais 1m76. pour la vraie taille. Sauf que je faisais 1m70 en rentrant au collège. Tu sais, t'as le carnet de santé, là.
Oui, oui.
Bah, 10 ans et demi, quand tu fais 1m70, si t'as pas une bonne répartie, tu te fais charrier. Donc, ouais,
donc,
j'ai
le
vite.
Mousseline, c'est une arme, c'est aussi un bouclier.
Complètement. Pour moi, quand tu sais manier l'humour, c'est la plus belle des armes, en fait. Parce que tu peux mettre quelqu'un à son aise, comme tu peux le déstabiliser comme jamais. Et ouais, j'adore.
Et tu peux te mettre à l'aise quand tu es déstabilisé en utilisant ton humour. Si quelqu'un
te dit. Est-ce que ça marche sur moi, par contre? Est-ce que si je me fais des blagues à moi-même, j'arrive à me déstresser?
Non, par exemple, si moi et Serge, on décide de t'attaquer pour le reste de l'interview, ouais. Je suis sûr que tu vas faire des blagues pour que ça se calme.
Ouais.
Donc, tu peux te défendre en utilisant ça si tu trouves que... tu sais pas... Moi je sais que, par exemple, si je sais, je sais pas quoi dire... j'ai dit ça une fois à des amis, c'est comme... Qu'est-ce que tu dis à une fille si tu es dans la rue et que tu veux juste lui dire bonjour? Ben, moi, j'ai pensé, oh, il y avait une fois, juste en passant, tu vois un camion, tu dis, ah, regarde le camion, c'est drôle, non? Et dit oui ou non. Après, bon.
C'est maintenant, ça ta phrase d'accroche?
Non, maintenant, tu as commencé une conversation, donc c'était juste une bête humour, c'était pas à propos de moi ni de la personne, c'est, on regarde dans la même direction, tu as vu ça? Ou tu n'as pas vu, ou tu as vu, mais. Donc, c'était juste pour entrer dans la conversation. Donc, l'humour, pour moi, c'est toujours, toujours prêt.
Ouais, et puis aussi le fait que bah, l'anglais, c'est pas ma première langue. Quand je suis arrivée ici, il fallait le prendre avec humour, hein, parce que je me prenais la tête. En fait, je trouvais ça super triste, personnellement, à titre personnel, que mes nouveaux amis francophones me trouvaient super drôle. Et que dès que j'essayais d'élargir mon cercle, donc que mes amis francophones me fassent rencontrer leurs amis anglophones, qu'ils leur disent « Oh, faut que tu rencontres Nat, elle est trop drôle !» Et moi, j'étais là. Ah ouais, mais je sais pas sur quoi je vais te faire rire, parce que le temps que je traduise la blague, il n'y a pas forcément d'équivalence, que je le sorte et que j'attende le rire, c'était plus le moment, le timing était pourri, c'était pas... Et j'ai mis longtemps à accepter que j'allais peut-être prendre du temps avant d'être drôle en anglais.
Ouais.
Ça y est, maintenant, ça arrive. J'ai des amis anglo qui me disent « Mais qu'est-ce que t'es drôle ?» Je suis là « Enfin ! Après 7 ans ici ! Enfin !» Mais oui, j'étais bilingue à Paris, mais j'étais pas bilingue à Toronto, quoi.
Mais donc, c'est l'art de la rigolade aussi, chez
ouais.
Nathalie. C'est pas que l'art de la conversation. Mais non, mais c'est un art aussi, je veux dire...
Les deux sont un peu liés, je trouve.
Il y a du rythme à voir, c'est ça. Il y a du...
Ouais.
Bah, y a des gens qui conversent sans avoir d'humour, hein. Ils vont parler de philosophie, ils vont parler d'un thème ou d'une compétence qu'ils ont... qu'ils arrivent à développer facilement, ça dépend de comment est ta personnalité, j'imagine.
Ouais, non, moi, c'est hyper important. Et même, j'ai toujours aimé faire rire ma famille, mes parents. Je faisais des sketchs quand on partait en vacances l'été. Tu vois, il y avait toujours une scène, un truc. Je montais, je faisais un sketch et tout. Je pense que c'est mon côté, ouais, j'essaye d'occuper mon cerveau qui va à 1000 à l'heure. Du coup, je suis fixée sur ma petite blague. Et puis, au-delà de ça, ça me permet d'être un peu moins timide et de me présenter différemment, en fait, que juste en étant Nathalie, en fait.
Et tu parlais tout à l'heure de Franck Open Mic.
Ouais.
L'humour que tu pratiques, si je ne me trompe pas, je commence à connaître un petit peu, c'est beaucoup de l'improvisation et du naturel.
Ouais.
Monter sur scène et faire rire les gens avec un texte que tu as écrit ou que tu n'as pas écrit, je ne sais pas, mais que tu as dans la tête... Tu le sens comment? Est-ce que c'est parce que tu disais que ça t'intéresserait de faire ça?
Ouais.
Comment l'artiste de la conversation, de la rigolade, va aborder ça et va mettre ça en place?
Eh ben, je ne sais pas si vous connaissez un humoriste qui s'appelle Redouane Bougueraba.
Oui, bien sûr.
Qui, lui, il a son spectacle, tu vois, il a ses lignes, mais il va toujours s'attaquer au premier rang ou ouais. Deuxième rang pendant quelques minutes et ça fait un peu partie du spectacle. Je pense que je l'appréhenderais un peu comme ça, tu vois. J'appréhenderais un peu... déjà, le truc qui est cool avec Franck Open Mic, c'est qu'il y a un thème. Donc déjà, tu peux plus ou moins imaginer ton moment autour de ce thème. Et puis après, en fonction de ce qui s'est passé dans ta vie, de ce qui s'est passé dernièrement, de la tête des gens au premier rang, tu vois, ou tout simplement d'un truc que tu as envie de dire, je pense que tu peux broder, en fait. Mais garder une structure, tu vois, c'est comme quand je fais des interviews, j'arrive avec mon post-it... En général, le post-it, il va me servir à 40%. Tout le reste, ça va être des rebondissements de conversation, de ce que la personne, elle va me dire. Donc, je garde toujours un point fixe, une béquille, en fait, j'appelle ça, tu vois.
Je comprends.
C'est vraiment histoire de me dire, si jamais ça se passe pas comme je l'avais prévu, je vais pas me casser la gueule, tu vois.
Je
J'ai quand
trouve
même un
ça
truc.
cool parce que ce que vous venez de faire, c'est comme un cercle qui revient parce que au début, tu commences, tu es enfant unique, tu as peut-être tes conversations entre ta salle de jeu et tout. Tu vas à l'internet, tu as une conversation avec une audience en ligne, mais ce n'est pas une conversation va-et-vient. Maintenant, tu vas à la radio où c'est une conversation entre deux personnes. Donc, tu utilises l'humour, tu utilises tout ce que tu as pour sentir si la personne est confortable ou non. Maintenant, si tu te mets sur scène, c'est une conversation entre juste toi et l'audience.
Ouais, mais un
Et
peu comme la radio au final, parce que la radio, oui, j'interviewe des gens, mais il y a aussi plein de fois où je suis juste devant mon micro, tu vois.
c'est vrai, mais maintenant, cette conversation entre toi et une audience, même s'il y a des gens au premier rang, c'est pas comme si tu as vraiment le temps de poser une question, d'avoir plus. Tu demandes, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pompier? Maintenant, tu parles des pompiers. C'est juste,
Ouais.
est-ce que donc tu as une façon peut-être de te préparer pour une conversation avec une personne ou une conversation avec une audience?
Mais ça dépend dans quel cas je suis, par exemple. Je donne toujours l'exemple de, admettons que tu m'invites à ton anniversaire. Il y aura tous tes amis, mais moi je connais que toi à cette soirée.
Et moi, je suis invité aussi ou il n'y a que Nathalie qui est
Ah si,
invitée?
à Serge c'est différent.
Serge arrive, il arrivera plus
Mais
tard.
Serge est toujours
Il
en retard. Il est encore
arrive.
plus en retard que moi, alors ça, faut le faire. Mais admettons, en
Il
attendant que
ça.
Serge arrive, eh ben, si je connais personne, eh ben, là, c'est Nathalie, tu vois, c'est pas le show, c'est pas le spectacle. Donc, je vais souvent être à côté du buffet, parce que c'est là où j'aime bien être, et avec mon verre et mon téléphone. Et je vais rester un peu timide jusqu'à ce que soit quelqu'un m'approche, soit que la personne que je connaisse m'introduise un petit peu aux autres et que là, je me sente à l'aise. Donc en fait, ça va dépendre. Si je suis dans mon personnage de moi-même, Nathalie, je vais être quand même plus facilement être intimidable. Je vais rester un peu dans mon coin. Alors que si je l'aborde en mode faut faire le spectacle, genre si je monte sur scène, bah, je serai pas en mode Nathalie Salmeron, je serai en mode Nat sur la scène. Tu vois, en mode je vais me préparer à pas me sentir mal à l'aise en fait. Alors que dans ma vie de tous les jours, je peux vite me sentir mal à l'aise en fait. Il y a des trucs, tu vois, genre il suffit que je dise un truc et que la personne elle rigole pas alors que je m'attendais à ce que ce soit la vanne du siècle et qu'elle me fasse un marrant. Ouh là 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 là, ça va être très
Mais
très
tu
dur pour moi.
pourrais
Ouais.
pas utiliser cette préparation pour Frank Open Mic,
Pendant ma vie de tous les jours?
pour cette situation dans une fête. Parce que si tu es là dans un coin avec un téléphone, tu vois, même quelqu'un qui te voit de loin peut avoir envie de te parler, mais t'as pas l'air peut-être ouverte parce que
Mais tu sais que c'est un truc qu'on me dit souvent,
t'es
hein. Il y
dans
a
ton
plein de gens qui me
téléphone.
disent oh, mais je savais pas que tu étais aussi sympa. Parce qu'en fait, quand je suis pas dans mon élément et que je me sens pas à l'aise, bah, je vais avoir le côté un peu froid. Genre, même mes parents, des fois, ils me font, qu'est-ce que tu as l'air avec ton regard sévère là? Oh là là! Parce que c'est ma façon à moi, un peu carapace, de me dire, bon, bah là, je suis pas en mode, j'ai envie de faire des blagues. Tu vois, je me détache un peu de ce truc-là. Et il suffit, admettons que là, boum, on est toujours dans cette fameuse soirée d'anniversaire et que je vois Serge arriver, je vais être, ah, mon visage va s'éclairer, les gens vont dire, ah, mais en fait, elle a l'air super sympa. Parce que à ce moment-là, je me sens plus en mode zone de confort, je retrouve quelqu'un qui me connaît, donc j'ai plus besoin de faire, pas semblant, mais d'être un peu dans mon personnage de, ouh là là, je me sens pas à mon
C'est
aise
comme
là,
quand
tu
tu
vois.
reconnais une tête dans l'audience
C'est ça.
et c'est ton ami, ouais.
Du coup, ça t'amène un peu de la force, tu vois. Bah, c'est un petit peu la même chose, je pense. Ouais.
Alors moi, j'ai pas pris de notes, mais j'ai un cerveau qui retient pas mal de choses et j'essaye de pratiquer ça. Et j'ai retenu deux, trois trucs que tu as dit au début, Nathalie, et je voudrais revenir là-dessus.
Allez, revenons,
Donc, on
revenons.
saute du coq à l'âne.
Oui, bon.
Le pauvre âne. Tu as parlé de différentes cultures au début.
Ouais.
Est-ce que c'est cet apport de culture et cette multiculture que tu as en toi, tu t'en sers? Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Vas-y, dis-moi ce que tu veux dire là-dessus.
Je sais pas si ça m'a ouvert des portes, mais alors pour resituer le contexte, du côté de ma maman, on est maghrébin musulman, et du côté de mon père, on est espagnol d'Espagne. Et enfin, je le précise parce que ici, quand on dit espagnol, on a tendance à penser Amérique du Sud,
Donc
mais
chrétien,
vraiment
chrétien, j'imagine aussi.
et chrétien, ouais. Donc du coup, j'ai la mixité culturelle et la mixité religieuse, parce que du coup, j'ai été bercée vraiment dans les deux. Après, le truc, et je remercierai jamais assez mes parents de ne pas avoir pris de choix pour moi, en fait. Ils n'ont pas choisi pour moi, est-ce que je devais choisir l'islam ou est-ce que je devais choisir le Jésus et tout ça. Et au final, c'est moi qui est arrivée à l'âge de 10 ans qui ai fait mon choix, en fait. Donc, j'ai choisi l'islam. Mais je trouve que les enfants issus de mixité sont beaucoup plus riches que les autres parce que sans rien faire, tu assistes à un brassage de culture autour de toi. Et moi, je pensais que c'était pareil pour tout le monde quand j'étais petite. Ouais. Je pensais que tout le monde était un peu moitié-moitié de quelque chose. Tu vois, moi, quand j'ai des vidéos, des cassettes vidéo là, qu'on filmait à l'ancienne avec des gros machins là, où je suis chez mes grands-parents et que ma grand-mère elle dit « Alors, tu préfères Noël chez les Arabes ou tu préfères Noël chez les chrétiens ?» Et parce qu'on faisait les cadeaux quand même, même si on était musulmans et tout. Et du coup, moi, j'aimais bien parce qu'on mange bien chez les Arabes. Hein, « Ouh là là, on mange le couscous, on mange avec les mains, on mange plein de trucs et tout. Moi, je kiffe. » Mais ouais, non, je trouve que c'est un vrai bagage. De savoir parler plusieurs langues, d'avoir des idées un peu ouvertes sur plein de choses. Et du coup, moi, en arrivant à Toronto, j'étais trop contente parce que... moi, après, je viens d'un quartier de banlieue. Donc, du coup, il y avait déjà ce brassage un peu culturel. On venait un peu de partout et tout. Donc, il y a aussi peut-être ce truc-là où j'avais l'impression que tout le monde était un peu métissé de quelque part, tu vois. Quelqu'un qui va être vietnamien, à moitié français, l'autre, il va être italien, portugais, machin. Donc, tu sais, il y avait quand même plein de trucs. Tu n'avais pas l'impression d'être tout seul. Et en fait, ici, en arrivant, en racontant un peu aux gens, c'est quoi, qui je suis, c'est quoi mes origines et tout, j'étais là, waouh, what a combo. J'étais là, ouais, je ne sais pas si c'est un combo particulier, mais de leur dire que j'étais moitié-moitié, que mon passeport, il est français, que maintenant, j'habite au Canada, et ils avaient un peu la tête qui tournait, je pense. Mais je trouve que c'est hyper... hyper cool, et puis tu vois plein de choses, quoi. Puis tu te rends pas compte que quand t'es petite, t'es une éponge, quoi. Tu te rends pas compte de tous les trucs qui t'entourent et t'absorbent, et puis tu vois, même la musique, genre je suis hyper éclectique, je pense que ça vient de là aussi, tu vois.
Donc tu te rends compte du rôle que ça joue dans ton art, de ta propre culture.
Ouais, et je pense que quand, comme moi, t'aimes bien avoir les réponses au tac et tout, d'avoir plein de références culturelles différentes, un peu du côté arabe, un peu du côté espagnol, maintenant un peu du côté canadien, de sortir des petites phrases. Des fois, je vais dire une blague, mais je vais la dire en anglais parce que ce sera plus marrant, tu vois. Je trouve que tu es plus riche de tout ça, ouais.
Et tu es plus ouvert aux autres cultures aussi, parce ouais. que tu dis, oh, je peux voyager, parce que j'ai déjà une mixture dans moi-même.
Ouais, puis je suis refermée à rien aussi, tu vois, c'est ça, je peux pas dire... Parce que pour moi, genre, le racisme, la discrimination générale et tout, ça vient de la peur d'autrui, la peur de « je ne connais pas ta culture, donc ça me fait peur ». Et en plus, je reprends l'islam, mais on a toujours le mauvais rôle dans les médias, c'est toujours des trucs catastrophiques, c'est jamais ramené comme il faudrait, je trouve. Mais du coup, moi, j'ai jamais cette appréhension-là, tu vois, genre, quelqu'un va me raconter sa vie... je vais écouter sans avoir d'a priori, en fait. Parce que moi, chez moi, on ne m'a pas élevé avec « Oh, ces gens-là, non, il ne faut pas les calculer. Ou, oh, ces gens-là, ils ne sont pas bien, tu vois. » On ouvrait la porte à tout le monde et chez moi, on est comme ça. Donc, du coup, j'ai ce truc-là aussi, tu vois. Même quand je rencontre des nouveaux arrivants ou des gens qui vont rentrer dans mon cercle d'amis, je vais toujours être celle qui va tendre la main, tu vois. Alors après, je ne dis pas que c'est bien à faire, hein, parce que souvent, ça m'a valu des coups derrière le cou. Mais c'est comme ça, je suis gentille, j'essaye d'être sympa en fait, j'essaye d'être l'aide que j'aurais aimé avoir à chaque fois en fait, tu vois.
L'aide en deux mots, pas en un seul mot.
Oui,
t'as dit un autre truc aussi, et qui reprend une de nos questions qu'on pose souvent à nos invités, t'as dit que ta maman avait dit « mais qu'est-ce que tu fais de tes vieux cahiers ?»
Ouais.
Et alors, deux questions. Première question, qu'est-ce que tu fais de tes vieux cahiers, en fait, à part les relire ? Est-ce que c'est du matériel pour toi pour plus tard ? Est-ce que tu as déjà analysé en disant, est-ce que c'est un truc que je peux faire avec ? Ou c'est juste, tu les parcours et puis il y a plein de souvenirs qui te reviennent et puis tu les remets en place ?
Je pense que c'est plus l'option 2 parce que du coup, c'était des trucs des fois un peu tristes, des états d'âme, tu vois. J'écrivais aussi pas mal dans mon journal intime, tu vois, machin et tout. Et ça se... Mes cahiers et mes journaux intimes, ça se regroupe un petit peu, tu vois. Sauf que dans mes journaux intimes, je racontais un peu plus ma vie privée, on va dire, mes amoureux et tout ça, parce qu'il y avait un cadenas et que mes parents ne pouvaient pas le lire. Mais ouais, non, dans les cahiers, c'était plus des états d'âme, des trucs. Tu sais, quand t'es adolescent, tu te poses des questions, machin, enfin bref. Et du coup, c'était pas forcément des trucs très rigolos, tu vois. Et j'ai l'impression que j'ai toujours été quelqu'un de drôle, mais j'ai toujours eu des moments un peu tristes, tu vois. Genre, j'adore faire la fête, j'adore être avec des amis, mais par contre, j'adore avoir mes moments toute seule. J'aime bien être chez moi, des fois dans le silence, avec ma petite bougie, faire mes puzzles de vieille, tu vois. Et en fait, c'est toujours un peu l'un et l'autre en
Un
même temps.
équilibre des
Ouais,
deux.
voilà, c'est ça. J'aime bien être dans le bruit, mais j'adore être le calme. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, vous êtes arrivé au studio, j'étais toute seule et j'étais pas triste d'être toute seule, tu vois, parce que j'y trouve mon compte. Donc, ces cahiers, je les parcours quand je suis chez moi, mais je les ai jamais ramenés, par exemple, tu vois. Ils sont chez moi.
Je crois que les meilleurs humoristes, surtout vu que ça t'intéresse, n'ont pas peur d'utiliser justement cette partie darkness, cette partie. Parce que quelqu'un qui est né dans une famille où ils avaient tout, riche,
Ouais, il y a
genre,
moins matière à
ouais,
rire, ouais, je
comment
suis
est-ce que tu
d'accord.
vas faire rire aux gens? Parce que pour faire rire aux gens, tu dois faire rire aux gens en disant, voilà, cette situation était tellement nulle que tout ce que je pouvais faire, c'est rire.
Ouais, c'est ça.
Au lieu de dire, ah, j'avais tout. J'ai mis les pieds sur la table et tout ce que je pouvais
Ouais,
faire,
c'est
c'est
ça.
rire. C'est complètement
Ouais,
différent.
non, non, je suis d'accord.
Ouais.
C'est plus simple de rire avec des trucs bah, tristes même, je pense,
Ben
pour
oui.
essayer de crever l'abcès et tout. Mais peut-être que maintenant que tu m'as dit ça, je vais les regarder avec un autre œil. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à me dire que ces cahiers en question allaient être un matériel particulier pour moi. Et l'humour, même si ça a toujours été dans un coin de ma tête, ça fait pas si longtemps que je me l'avoue. Hein. De vouloir monter sur scène, de vouloir faire des trucs. Ça, depuis que je suis au Canada, ça, c'est un peu plus dans ma tête, on va dire. Mais ça doit faire seulement ouais, 3 ans, on va dire, que ça me travaille vraiment, que dans mon téléphone, genre, j'ai des pages et des pages de texte. Mais c'est même pas des pages de texte, genre un sketch complet, ça va être des situations, d'un
Ouais.
truc, d'une galère, tu vois. Et souvent, maintenant, quand il m'arrive une galère, je la note. Et je me dis, oh là 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 là, je suis dans une galère, mais oh, comment je vais me dépatouiller de cette galère? Et en fait, je me dis, écris tout ça et ça va te faire rire plus tard, tu vois. Toutes mes histoires de visa, de oh, j'en ai vu des vertes et des pas mûres depuis que je suis là. Donc, du coup, ouais, ça c'est drôle. Parce que même maintenant, quand je le raconte aux gens, ils me font, oh, mais c'est très drôle. Et je me dis, oh là là, sur le moment, comment je rigolais pas du tout. Ah ouais, non, non, c'est. Ouais, je pense que c'est important par contre. Même pour. Même si tu ne le fais pas des blagues devant tout le monde, juste même pour toi, je pense à un conseil à donner à tout le monde, c'est soyez triste, ok, mais gardez dans un petit coin de votre tête une petite porte pour l'ouvrir vers l'humour. À un moment donné, ça va vous faire du bien parce qu'on ne peut pas rester triste toute sa vie, genre. On ne peut pas rester
Ouais.
constamment triste.
Et on peut pas constamment échapper à la
On
tristesse.
ne peut pas rire tout
Ouais.
le temps, mais on ne peut pas être triste tout le temps, quoi. Il faut savoir s'accrocher à des moments de tristesse pour être plus drôle, je pense. Ouais.
Et pour revenir sur ma question, et la deuxième partie de ma question, que je n'ai pas
Ouais.
oubliée malgré tout ce que tu racontes,
C'est vrai que je suis pipelette aussi, stressant.
arrête de dire ça, tu parles, c'est tout. C'est bien. Sans parler des diaries, dont je trouve plutôt le mot en français,
Les journaux
désolé,
intimes?
journal intime, merci, mais plus la Nathalie qui sort de l'école de journalisme et qui écrit ses premiers articles.
Ouais.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de les relire et de qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'en es toujours fier? Ou il y a un petit truc qui dit oh, j'ai un peu honte de ce que j'avais fait quand j'étais vraiment jeune.
Alors, non, je ne les ai pas forcément relus, mais j'ai beaucoup travaillé au début de ma carrière dans la presse people. Donc, c'est de la presse que je consommais aussi beaucoup, tu sais, les magazines à scandale, les machins, les trucs. Et j'étais tellement excitée de faire partie des petites histoires des stars, tu vois. C'était un peu ça. Et genre, des fois, je revenais à la maison, je dis à ma mère, tu savais pour ça? Bah ouais, bah il y a ça. Et genre, ma mère, elle avait l'impression d'être pareille, tu sais, d'être un peu au milieu de toutes ces histoires-là. Donc, est-ce que je les ai relues? Non. Est-ce que je peux même encore accéder à tous ces articles en ligne d'il y a 1500 ans? Je ne suis pas sûre, sûre. Est-ce que j'en serais fière? Ouais, je pense. J'ai jamais, de manière générale, même, tu vois, les travaux d'école de quand j'étais au lycée ou quoi, en relisant, je me suis jamais dit, oh, j'écris ça comme avec un pied, tu vois. Genre. Non, j'étais toujours. Après, il y avait l'époque, tu vois, genre, ton écriture, elle évolue. Puis, je pense que. L'humour, même dans mes articles, il est arrivé un peu après, tu vois. Avant, j'étais un peu plus premier degré dans tout ce que je faisais. Il fallait que ce soit straight to the point, tu vois, on va droit au but, on s'éparpille pas en faisant une blague, en espérant que la personne qui le lise ait la ref ou quoi que ce soit. Non, tu vois. C'était, ouais, non, je pense pas que je serais honteuse, mais je serais curieuse de les retrouver, tu vois, genre, tous ces trucs-là. Pauvre personne sur qui j'écrivais des atrocités.
Et à l'époque, tu signais ton nom déjà ou ouais. C'était, parce que parfois, c'était pigiste et puis il signe pas ton nom. Mais...
Si, ouais, où j'écrivais Nathalie, N-A-T-A-L-Y, parce que j'ai pendant longtemps eu le complexe de mon prénom. Parce que quand je disais, quand j'étais petite surtout, et que je disais « Salut, je m'appelle Nathalie. » « Ah, comme ma mère !»« Ah, comme ma tante !» Ouais, ta tante, elle a 55 ans, tu vois, genre, relou. Et du coup, j'avais toujours l'impression d'avoir un prénom de vieille, en fait, tu vois. Et du coup, pendant longtemps, j'ai écrit mon prénom N-A-T-A-L-Y, donc Nathalie, tu vois, un petit peu plus branché.
Nathalie.
Et même au bac, tu vois, genre, la petite anecdote, c'est qu'au bac, j'ai dû refaire ma copie parce qu'il faut que ça soit écrit comme sur ta carte d'identité. Et en fait, j'ai écrit mon truc et puis je vais pour, tu sais, relire mon truc. Je suis merde, il faut que je recommence tout à écrire parce que du coup, c'était pas le bon nom. Mais même mes profs, sur mes bulletins scolaires, ils écrivaient mon nom sans H, avec un Y à la fin. Parce que ouais, je pense du collège à la fin du lycée, j'ai écrit mon nom comme ça pendant 7 ans, tu vois. Et en fait, en arrivant ici, bah, il n'y a pas de H en anglais à Nathalie. Bon, ça s'écrit IE à la fin, mais ça s'écrit N-A-T-A-L-I-E. Et du coup, quand je disais ici que mon prénom, il avait un H, bah, je me ressentais un petit peu originale, tu vois. Donc du coup, maintenant, ça y est, c'est passé. Bon, ça fait 7 ans que je suis là, donc ça y est, la pilule est passée. Puis je commence à vieillir un peu dans le temps, donc ça y est, j'ai accepté mon prénom.
C'est ça, t'as les âges des tantes et des grand-mères.
C'est ça, j'ai les âges des tantes et des grand-mères en question. Mais du coup, ouais, pendant longtemps, j'ai peut-être signé pendant longtemps mes articles Nathalie, Nathalie. Ouais.
Ah, intéressant ça. Il y en a d'autres ici dans le studio qui ont des noms d'artistes et parce que leur prénom, ils aiment pas trop
ça. En plus, son nom d'artiste et mon prénom, ça se ressemble.
Ah oui,
Don Nathalie. Ouais. Ah oui, c'est
tu
ça.
Tu sais, moi, je crois que j'ai dit à Serge, mon histoire avec mon nom, c'est marrant parce que c'est une vraie relation. Donc, moi, mon nom maintenant, je dis mon prénom c'est Innocent, mon nom c'est Ngenzi.
Ton vrai prénom c'est Innocent?
Ouais.
Sérieux?
Alors, écoute, depuis que je suis jeune au Rwanda, on ne m'appelait pas Innocent. On disait Innocent, ça c'est ton nom chrétien. Okay. Ngenzi, c'est ce qu'on m'appelait. Parce que ça c'est dans la langue, ça veut dire quelque chose, c'est un nom courant dans le pays.
Dans ton dialecte,
attends. Dans le pays, il y a plein de Ngenzi et tout.
Il y en a trop même.
Ouais. Alors, j'arrive en Belgique, on me dit c'est quoi ton nom? Je dis Ngenzi. Il dit non, il dit ça c'est
ton prénom de la base,
c'est ton dernier nom, ouais, ça c'est ton nom de famille. Il dit c'est quoi ton autre nom? Je dis Innocent. Il dit ah, ça c'est ton prénom. Et là il commence à m'appeler Innocent, mais moi je dis c'est qui ça?
Tu te reconnaissais pas? Ah,
alors j'apprends à accepter Innocent. Il y a quelques amis qui m'appellent Inno pour plus court. J'arrive au Canada. Je dis, mon nom, c'est Innocent. Les Québécois, ils disent, hé, Innocent? T'es bien Innocent? T'es bien Innocent? Donc, tout à coup, mon nom, maintenant, c'est une insulte. Donc, c'est toute cette histoire. Et après, je dis, tu sais, si je vais être artiste, je ne peux pas dire toute cette histoire chaque fois. Ou je ne peux pas...
Ouais, tu ne peux pas dire avec ta valise d'histoire, là,
et perdre la moitié de l'audience s'ils sont ici ou s'ils sont de là. Donc, c'est là que j'ai dû inventer un nom de scène, en fait. Parce qu'avec toute cette histoire, je dis, mais c'est fou.
Ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Il y a plein de gens comme ça hein, qui changent de prénom et tout. Moi, j'avais des mecs au collège, pareil, ils avaient des prénoms du bled d'Afrique et tout, dont un gars, tout le monde l'appelait Sydney, tu vois. Je trouvais ça super stylé. Je dis, moi, tu vois, je m'appelle Nathalie comme une vieille, et lui, il s'appelle Sydney et tout. J'ai vu sa carte d'identité. Un jour, elle est tombée par terre. Et en fait, son vrai prénom, c'était Fraise. Là, c'était un Congolais et tout. Et en fait, Sinès, c'était le prénom qui s'était inventé, pareil, tu vois, pour faire un peu plus stylé.
Ouais, Fraise, ça n'allait pas aller loin.
Fraise, il la ramenait pas trop, sa Fraise.
mais la petite histoire, pour finir, sans vouloir dévoiler trop de trucs, mais Hatali, ça veut dire danger.
Ah oui.
Ça veut dire ça?
Donc, en Swahili, ouais.
En Swahili, donc innocent en danger, c'était...
Ouais, c'était mon yin-yang.
Parce que quand j'ai fait ton interview, Don, je me rappelle que tu as dit un truc sur Atali et je ne me rappelais pas que ça voulait dire danger. Il n'y avait pas une autre signification?
Ben, ça veut dire danger, mais ça veut dire aussi impressionnant ou quelque chose de trop Par exemple, quand tu dis, j'ai vu un film, c'était terriblement bien.
Ouais.
C'est que le film n'était pas terrible, mais tu utilises le mot.
Ouais. Comme tu as dit, oh, c'était mortel, mais ouais. c'était pas mortel. C'est
Donc,
juste dire, c'était
tu peux aller au restaurant au Rwanda et manger une brochette tellement bonne, tu dis, oh, cette brochette est dangereuse.
Donc, elle est hatali.
Elle est hatali. Ouais. Ok.
Ouais, excellent. Bah, voilà. On arrive bientôt à la fin.
Déjà, voilà, ça passe vite, les amis, quand on s'amuse.
50 minutes, il va falloir qu'on monte tout ça, donc c'est juste pour le fun. Tu en as déjà parlé tout à l'heure un petit peu aussi, Nathalie, parce que je sais que tu lis dans nos pensées et tu sais quelles questions on va poser. Même si nous, on sait même...
faire des effets spéciaux et là, je fais ça c'est et ça. Sa tête devient une boucle de cristal.
Même nous, si on ne sait pas quelles questions on va poser, toi, tu le sais déjà. Mais on demande souvent ça aussi à nos invités. Avec tes 45 ans d'expérience, quel conseil tu donnerais à un tout jeune qui devient journaliste et qui veut avoir ton expérience ou qui veut avoir ton bagou ou ton art de la conversation?
De toujours poser des questions. Si ma mère, elle écoute cette interview, elle dira, ah, voilà, elle donne des conseils aux gens, il ne faut pas les écouter. Ma mère, elle déteste, je pose trop de questions pour elle. Non, poser des questions, c'est bien. Il faut être curieux, curieux de tout, regarder des documentaires sur même des sujets qui ne vous intéressent pas parce que ça va vous amener de la culture sur des trucs que vous allez retrouver plus tard. Discuter avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce que discuter qu'avec des amis à vous ou que des gens qui voient dans votre sens, vous n'aurez jamais la version inverse. Genre discuter avec quelqu'un de profondément raciste, ça ne donne pas envie, mais du coup, tu vas apprendre des choses ou tu vas lui apprendre des choses sur la vision de certains trucs. C'est hyper intéressant. Ouais, genre, sortez de votre zone de confort, n'hésitez pas à taper à des portes, même si ça ne répond pas. Moi, avant d'avoir ce travail chez Choc FM, j'ai galéré. Je ne pensais même pas que ça allait être possible. Donc, jamais lâcher l'affaire, en fait. Moi, je pensais pendant longtemps que, bah, justement, c'est marrant parce qu'on parle de créativité. Et moi, pendant longtemps, je disais à mes amis, tu vois, ma créativité, depuis que je suis au Canada, bon, on me l'a mis dans une petite box et la box, on l'a mis au fond d'une cave. Et je ne faisais pas ça, en fait, je faisais du service à la clientèle, donc je n'avais pas besoin d'être créative. C'était oui, non, bonjour, c'est quoi votre problème? Je trouve une solution, c'était très pragmatique. Donc, et même si vous n'utilisez pas votre créativité au quotidien dans votre travail, n'hésitez pas à être créatif, même chez vous. Créez des trucs, regardez des tutos, soyez un peu foufou, genre ne pas avoir peur d'être un peu différent des autres. Moi, j'aime bien les gens qui sont différents, genre j'ai des amis... Je me demande des fois comment ils sont amis entre eux parce qu'à la base, ils n'ont rien à voir et je suis un peu Nokia connecting people, tu vois. Genre, j'aime bien connecter des gens qui, je sais, à la base, ça ne va pas le faire, mais j'ai trouvé le trait de caractère qui, je suis sûre, ça va matcher et du coup, ils deviennent même potes. Des fois, je n'ai même plus besoin d'être là et tout. Donc, ouais, essayez de ne pas aller dans le même sens que tout le monde parce que si tout le monde va déjà dans ce sens-là, vous n'allez pas vous démarquer. Quand les jeunes disent « Ah, mais tout le monde fait ça !» Ouais, bah, soyez l'inverse. Soyez un peu le contresens. Ayez pas peur de dire vos idées. Et n'ayez pas peur de parler, en fait. Parce qu'il y a plein de fois, des gens vont dire « Ah, faut se taire, faut prendre sur soi, machin. » Bah non, dites-le, écrivez, faites des trucs. Je pense que c'est ça, en fait. De jamais lâcher. Puis moi, j'ai un caractère très... tant qu'on me bouge pas, je bouge pas. Tu vois, c'est le caractère du quartier un petit peu. Tu vois, tant que je suis là, tu ne me bougeras pas, j'ai décidé d'être là. Si le jour où je décide de partir, je partirai. Mais ouais,
donc il faut avoir du caractère.
Ouais.
Il faut...
Surtout si c'est des femmes, genre. Ayez du caractère. Ne vous laissez pas impressionner par des hommes. De manière générale, c'est important. Genre, écoutez votre voix intérieure. Et même si des fois, vous avez l'impression de faire des trucs de gamin, restez gamin. Genre, c'est beau de rester un peu un enfant, je trouve. Voilà. T'as des conseils, toi, à donner?
En t'écoutant, j'écris les rimes et je fais assez attention aux mots que j'utilise. Donc, j'ai arrêté d'utiliser quelques mots. Maintenant, quand j'écoute quelqu'un, je fais aussi assez attention à quelques mots qu'ils utilisent. Par exemple, tu dis super intéressant assez souvent.
Ah ouais?
Et je trouve que c'est bien parce que dans ton conseil, ce que tu disais, c'est comme s'il faut essayer de trouver une manière d'être intéressant soi-même et d'aller vers ce qui est intéressant. Donc,
ouais, et puis même d'un truc que tu ne trouves pas intéressant, essaye de voir pourquoi ça ne t'intéresse pas, tu vois. Genre, ouais. Des fois, je regarde des documentaires sur la pêche et je me dis, ça ne va pas m'intéresser, mais je trouve deux, trois trucs que je trouve intéressants et des fois, tu sais, genre dans une conversation avec quelqu'un que c'est sûr qu'on a zéro atome crochu. Je vais ressortir ce truc du documentaire d'il y a 6 mois sur la pêche. Et boum, ça va faire l'effet mouche. Et le gars va se dire, ah bah tu vois, là, je pensais pas, mais tu vois, elle est cultivée la petite. Et voilà. Tu vois, documentaire sur la pêche. Il y a plein de trucs comme ça. Des fois, j'ai l'impression de perdre mon temps devant des trucs pourris à la télé. Et au final, ça sert toujours. Donc, ne jamais sous-estimer le temps mort où on fait rien. Avec des vieux trucs qui tournent sur YouTube en permanence. Restez éveillés.
J'ai l'impression que les enfants seuls ne savent pas s'ennuyer.
Ouais, peut-être. C'est joli, ça. Les enfants seuls ne savent pas s'ennuyer.
Ça, c'est dit d'une chanson, ça, j'ai l'impression.
Ah ouais.
Peut-être une prochaine chanson de Donna Nathalie. Donna Nathalie et Nathalie, ouais. Merci beaucoup. Mais non, vraiment, moi j'ai eu du fun. J'espère que tu as eu plein de fun.
Ouais, je suis contente d'être passée dans votre émission,
les gars. Et puis d'être interviewée et de répondre aux questions pour une fois.
Intervieweuse, j'adore.
Et puis, on va pas écouter ta maman parce que je pense que tes conseils sont super bons. Et on va bien les écouter. Je connais pas ta maman, mais je l'embrasse très fort.
Bah, elle est encore plus drôle que moi, même.
Ah, bah écoute, je savais pas que c'était possible. mais merci beaucoup, Nathalie, pour tout ton temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. En faisant quelques points d'humour, mais en étant vraiment comme très naturel. Et Nathalie.
Ouais. Et merci aussi pour tout ton support avec notre podcast Juste pour le Fun.
C'est vrai.
Très apprécié.
Non, mais j'adore le concept de votre émission. Et depuis le début, quand Serge m'avait pitché le truc, je trouvais ça génial. Donc, tenez le bon bout, les gars, c'est bien.
C'est vrai qu'on ne te remercie pas souvent, mais on va le faire publiquement. Et tu fais un boulot extraordinaire backstage pour nous aider à produire cette émission. Donc, merci beaucoup, Nathalie. C'est très, très apprécié.
Derrière deux hommes forts, il y a une femme très forte.
C'est ça.
Merci en tout cas.
Merci à tous encore pour ce bel épisode avec Nathalie. Et puis, on se retrouve au prochain épisode avec qui ? On ne sait même pas encore, mais on verra bien. C'est juste pour le fun.
Juste pour le fun.
Merci.
Merci.
Au revoir.